Pronostic Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, prix client mobile 20 gigas et plus, engagement 12 mois, Wi-Fi numéro 1 selon le dernier baromètre Wi-Fi sur nperf.com.
France Inter, l'info, la culture, la musique, l'humour, tous les jours.
Il est 17h sur France Inter. Le point sur l'info avec vous, Amélie Perrier.
Jamais un Premier ministre n'avait pris autant de temps pour former son gouvernement. 14 jours que Michel Barnier a été nommé, 14 jours qu'il tente de résoudre l'équation entre les forces politiques, les tensions avec les macronistes, le refus de participer de la gauche. Une ultime réunion se tenait à Matignon cet après-midi. Bonjour Maxence Landré.
Bonjour.
Réunion avec les dirigeants de la droite, du centre et du camp macroniste. Elle vient de se terminer.
Oui, tout à fait. Après une heure et demie à peu près, le verdict n'est pas tombé. Chacun s'engouffre maintenant dans sa voiture rue de Varennes. Autour de la table, il y avait Gabriel Attal, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Hervé Morin, Marc Fesneau pour le Modem. Une dizaine de leaders. Michel Barnier leur a, si tout s'est passé comme prévu, présenté les grandes lignes de son projet, ce qu'il n'avait encore jamais fait, et la composition du gouvernement qu'il imagine. Une nouvelle liste. Le Premier ministre en a déjà présenté au moins deux différentes à Emmanuel Macron. Il devrait en présenter une nouvelle ce soir, mais rien n'est écrit, insiste l'entourage du président. Tout peut encore bouger jusqu'au dernier moment. Michel Barnier est-il capable de jeter l'éponge si aucun accord n'a été trouvé entre l'ancienne majorité et le parti de Laurent Wauquiez ? Non, sans doute pas. C'est en dehors de son caractère, de son schéma, dit un de ses amis. Il a atteint le Graal de sa carrière. Il ne va pas le lâcher comme ça. Quand on demande à un proche du Premier ministre quel est le niveau de tension sur une échelle de 1 à 10, il répond 9 du point de vue politique, 4 en vérité. Comprenez, c'est un bras de fer. Il laisse circuler l'hypothèse de la démission pour obtenir le gouvernement le plus à droite possible. Patience, patience. Matignon a annoncé ce matin que c'était la dernière journée de consultation, pas forcément la journée des décisions.
Maxence Langrabrec, merci, chef du service politique de France Inter. On va suivre tout ça dans nos prochaines éditions. L'ennemi a franchi toutes les lignes rouges. Ce sont les mots d'Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah s'exprime cet après-midi à Beyrouth après une série d'attaques. Et ce nouvel acte d'intimidation d'Israël en plein discours, l'aviation de l'État hébreu a franchi le mur du son juste au-dessus de Beyrouth. Celui qui est considéré comme l'homme le plus puissant du Liban reconnaît avoir reçu un coup sévère avec les piratages et les explosions massives des beepers et des talkie-walkie des derniers jours. Ces attaques massives et simultanées ont fait 37 morts et 3000 blessés. Hassan Nasrallah promet à Israël un terrible châtiment. Aux États-Unis, la campagne présidentielle bat son plein et la balance penche du côté de la démocrate Kamala Harris, surtout qu'elle reçoit en ce moment le soutien de personnalités qui n'étaient pas de son bord jusqu'à présent. L'ancien vice-président de George Bush, Dick Cheney, le fils de John McCain, candidat républicain à la présidentielle 2008, et aujourd'hui 111 anciens membres des administrations républicaines rallient le camp de Kamala Harris dans une lettre où ils affirment que Donald Trump est inapte. C'est la correspondance à Washington de Sébastien Paour.
Toute préoccupation potentielle au sujet de Mme Harris n'est rien en comparaison avec celle concernant M. Trump. La lettre de ces républicains ne tourne pas autour du pot. Ils sont loin d'être d'accord sur tout avec la démocrate, mais le candidat de leur parti est inapte à servir à nouveau comme président. Et il y a parmi les signataires des opposants de longue date au milliardaire, mais aussi d'autres qui avaient refusé de signer un appel similaire à soutenir Joe Biden il y a 4 ans. D'anciens fonctionnaires sous Reagan et les Bush père et fils, 2 anciens secrétaires à la défense, 2 anciens directeurs de la CIA, un ancien directeur du renseignement, un ancien président de la Banque mondiale, plusieurs anciens élus de la Chambre des représentants et l'ancien gouverneur du Massachusetts. Leur courrier condamne l'attaque sur le Capitole qui a mis le pays en danger et énumère les raisons pour lesquelles ils ne voteront pas Trump le 5 novembre, notamment une affinité inhabituelle pour les dictateurs et un mépris pour les normes d'un comportement décent, éthique et légal. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
L'administration française peut être parfois source de maltraitance institutionnelle. C'est un rapport d'ATD Carmonde publié aujourd'hui. L'organisation exige de l'État d'y mettre fin. L'absence d'interlocuteurs, des formulaires trop compliqués à remplir, un accueil condescendant. Des millions de personnes sont victimes d'une administration défaillante, surtout d'ailleurs les près de 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté. Et bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir.
Ce soir, dans le téléphone sonne, on va parler d'un podcast exceptionnel qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Samuel Paty, l'école face au terrorisme. C'est signé de 2 journalistes de la rédaction de France Inter, Sarah Guibaudot et Sonia Princé. Elles sont allées recueillir les témoignages d'élèves et d'enseignants confrontés au terrorisme. Le témoignage notamment de Sylvie, une collègue de Dominique Bernard, lui aussi assassinée dans son établissement par un ancien élève. C'était en octobre 2023 à Arras.
On se dit que peut-être, est-ce qu'on les a mal enseignés, ces valeurs? On a dû rater quelque chose pour qu'il en soit arrivé à faire ça. Quoi, on ne sait pas, mais je pense que l'an prochain, dans davantage de matières, on insistera sur les valeurs de la République. Elles transparaissent dans tous les cours, mais on insistera peut-être davantage.
Et c'est bien le sujet, Fabienne. Comment parler de terrorisme, mais aussi de laïcité, de République à l'école? Vous en parlez, vous, ce soir dans le Téléphone Sonne.
Et c'est vrai que ce que nous voulons interroger ensemble ce soir, à l'occasion de la sortie de ce podcast, c'est ce que les victimes des attentats ont à dire et expliquer aux jeunes dans les classes. Comment l'échange, l'interaction avec des témoins permet de déconstruire mieux des discours et des théories, permet de comprendre et aussi d'apaiser les débats. Certaines victimes de Charlie, du Bataclan, et qui seront avec nous ce soir, vont dans les classes désormais. Mais échangent avec les élèves au-delà des écrans. Ils apportent de l'humain, ils apportent de la chair. Ce dialogue victime-élève, vous l'avez peut-être eu dans votre classe, vous qui êtes professeur. Racontez-nous ce que ça vous apporte, vous a apporté, ce qu'en disent vos élèves. Peut-être que vous cherchez aussi ce dialogue parce que vous êtes démunis devant les questions de certains de vos élèves ou peut-être de vos enfants. Peut-être que vous, lycéen, collégien, la rencontre avec quelqu'un qui a vécu le Bataclan, qui a vécu Charlie, les terrasses de l'intérieur, tout cela dans sa chair. Peut-être que ça vous a fait comprendre et prendre conscience de beaucoup de choses. C'est ce dialogue-là qu'on voudrait avoir ensemble ce soir au 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne, c'est juste après le journal de 19h. À tout à l'heure, Fabienne. Les ventes de vinyles repassent devant celles des CD. Un des enseignements du dernier baromètre du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Le marché de la musique a enregistré une progression au premier semestre de cette année. Les ventes physiques baissent, mais celles du numérique progressent plus fortement. Et donc, pour la première fois depuis les années 80, davantage de vinyles se sont vendus que de CD.
Léon Blum, une vie héroïque. Le podcast à succès de Philippe Collin arrive sur France 5.
Un gouvernement de Front Populaire doit être un gouvernement de bien public.
Vive le peuple ouvrier !
Léon Blum, une vie dévouée à la justice sociale et à la paix.
La France et l'Allemagne doivent se réconcilier. Son idée, c'est l'Europe.
Léon Blum, une vie héroïque. Un documentaire en 4 épisodes à découvrir dimanche dès 21h sur France 5 et sur la plateforme France.tv avec France Inter.
Être à vos côtés depuis 90 ans, ça rend forcément plus humain. C'est pourquoi, à l'occasion de ces 90 ans, GMF vous offre jusqu'à 150€ pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation. Et ce jusqu'au 30 septembre. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
Grand frais.
Oui, c'est Jean, le projectionniste. Pour la séance de 17h, je peux pas. J'ai grand frais. Il faut dire que chez eux, même avec les navets, je me régale.
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes disponibles chaque jour. Ultra frais et tellement savoureux. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
France Inter, déjà 17h08, c'est la deuxième partie de Zoom Zoom Zen. Avec vous, Mathieu Noël.
Eh oui, déjà, merci beaucoup Amélie Perrier. Retour dans l'info sur Inter à 18h.
S'il ne devait en avoir qu'un seul, ce serait lui, le visage de la contestation iranienne, celui de Mahsa Amini, 22 ans. Sa mort le 16 septembre dernier a déclenché un vent de colère inédit dans le pays.
Bonjour Delphine Minoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Delphine, vous êtes journaliste au Figaro, grand reporter, spécialiste du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient. Et entre nous, on peut parler cet après-midi de rencontres au sommet. Puisque si vous avez obtenu le prix Albert Londres pour vos reportages sur l'Irak et l'Iran, j'ai pour ma part obtenu le prix d'intervieweur de l'année pour mon interview bluffante, sans concession et surtout parfaitement documentée de Najat Vallaud-Belkacem avant-hier. L'ex-ministre de la Culture Najat Vallaud-Belkacem. Qu'est-ce que j'ai dit ?
De la culture.
Je dirais donc un partout, la balle au centre, vous voulez, voilà. Delphine, si on vous reçoit cet après-midi, c'est hélas pour évoquer une actu peu rieuse, la situation des femmes en Iran, 2 ans après le début du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, 2 ans après la mort de Mahsa Amini, la femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs dont on parlait dans l'extrait qu'on a entendu à l'instant. Vous êtes vous-même franco-iranienne et vous sortez un roman au seuil, Bad Gens, l'histoire d'une jeune iranienne qui défie justement l'ordre établi. On va y revenir ensemble. Mais déjà, une première question, l'arrivée d'un nouveau président en Iran, Masoud Pezeshkian, qu'on a présenté comme plus libéral, plus ouvert, ça a changé quelque chose ou pour l'instant strictement rien ?
Alors, il a fait beaucoup de promesses pendant sa campagne électorale. Il a dit qu'il allait rediscuter pour que le foulard devienne facultatif, foulard qui est obligatoire depuis 1979. Il a tendu la main à l'Occident, il a parlé de possibles renégociations sur le nucléaire iranien. Mais on le voit, ces derniers jours, qui est-ce qui a le dernier mot? C'est le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Et le président, même s'il est réformiste, il a vraiment les mains liées pour l'instant.
Zoom Zoom Zen, votre fournisseur officiel de bonne humeur et de bonnes nouvelles. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes là depuis 16h, je vous ai déjà dit bonjour mais je suis poli, alors je vous le redis, quant à vous qui nous rejoignez, soyez les bienvenus. Zoom Zoom Zen, c'est désormais 2h chaque après-midi pour refaire le monde dans la joie et l'allégresse, mais aussi dans la mesure du possible, hein, puisque notre monde n'est pas toujours une sinécure. On va zoomer aujourd'hui sur la situation des femmes en Iran, avec notre invitée, donc la journaliste Delphine Minoui, autrice d'un roman sur le sujet. On répondra également à ces autres questions que vous vous posez certainement. Comment changer de vie et passer de graphiste à New York à cultivateur de piment dans le Perche? C8 va-t-elle finalement garder sa fréquence sur la TNT ou se procurer la nouvelle poupée Aya Nakamura? Faut-il applaudir ou s'inquiéter de la nouvelle version restreinte d'Instagram pour les ados? Ou encore, comment devenir milliardaire sans trop forcer? Même si là, Quentin a déjà une idée, pousser tonton dans l'escalier. Mathieu Noël. L'arrivée d'un nouveau président à la tête de l'Iran sera-t-il un tournant pour les Iraniennes 2 ans après le début du soulèvement Femmes, Vie, Liberté? On va donc en parler avec vous, Delphine Minoui, juste le temps de vous présenter mes précieux acolytes, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour.
Manon, vous n'avez pas encore d'enfant, encore moins d'ado, et si c'était le cas, une chose est sûre, il filerait droit. Un pas d'écran avant 16 ans, et pour s'amuser, un boulier, une toupie, et rouler jeunesse. Les réseaux sociaux, vous en connaissez les dangers, vous les observez pour nous chaque après-midi dans votre veille sanitaire.
Les ados vont avoir le droit à des comptes faits sur mesure pour eux sur Instagram. Meta veut doubler la vigilance concernant la protection des mineurs. Sur le papier, c'est une bonne chose, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas beaucoup à ces nouvelles fonctionnalités annoncées en grande pompe par l'entreprise.
Face à vous, Delphine, vous avez un point commun avec lui, alors pas le prix Albert Londres, hein, mais vous êtes tous les deux amoureux de la Normandie. Quentin, vous avez grandi à Alençon, le Perche de notre invité n'est pas très loin.
Tout à fait, le Perche est pile entre Paris et Alençon. Je ne fais pas des caisses, c'est comme ça. J'ai donc ouvert l'hebdomadaire Le Perche, un graphiste new-yorkais qui débarque non loin de Mortagne pour y faire pousser des piments. Camoulox, non. Juste le portrait cool de la semaine.
Elle aimerait bien pouvoir s'extirper rapidement de notre open space où elle subit quotidiennement les conseils humour de Cyril qui l'oblige à regarder des vidéos de Jean-Marie Bigard pour, je cite, s'améliorer. Bonjour Marie de Brouwer.
Bonjour, il est fan.
Votre objectif, devenir rapidement milliardaire pour pouvoir nous dire bye-bye.
Bah oui, et heureusement, il y a Xavier Niel, Xav, comme je l'appelle, qui a rempli l'Olympia hier avec son spectacle qui s'appelle « Comment devenir milliardaire ». J'espère que ça va m'aider.
Il s'appelle vraiment comme ça, le
spectacle ? Oui, bien sûr.
C'est pas mal. Enfin, il est l'homme qui impose aux humoristes de cette émission de revisionner le spectacle Bigard Bourbercy pour les aider, je cite, à monter en gamme. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, monter en gamme.
Chaque après-midi, Cyril, vous transcendez votre fonction de rédacteur en chef de cette émission pour vous inviter à table et nous livrer les 3 infos qu'on aura hâte de rapporter à nos proches ce soir au sommaire du Lacar News.
Eh bien, il y a une menace de grève chez les joueurs de foot, C8 qui ne veut pas disparaître et une poupée très... Pookie.
Et peut-on être à la fois drôle et engagé? Bigard pensait que oui. Et Yann Marguet aussi. Yann qui nous livrera son billet en toute fin d'émission, bien sûr. Mais d'abord, les 2 ans du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran avec une des meilleures spécialistes du pays, la journaliste Delphine Minoui. On va parler de votre roman Badgens qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Mais d'abord, ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, 2 ans plus tard, on en est où?
Ben, disons qu'il y a eu une énorme vague de répression, des milliers de personnes se sont retrouvées derrière les barreaux, des centaines d'activistes ont été tués, certains ont été condamnés à mort. Il faut rappeler que quand les miliciens et les policiers tiraient sur la foule des protestataires au tout début du mouvement, parfois ils visaient sciemment des parties génitales pour les filles, les yeux. Il y a des dizaines de filles qui ont été éborgnées. Et malgré tout, j'ai envie de dire qu'il y a de l'espoir. Et c'est ça qui me bouscule, qui me fascine. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération irrévérencieuse, jusqu'au boutiste, prête à aller jusqu'au bout de ses désirs. C'est-à-dire que les filles, quand elles sont sorties dans la rue après la mort de Mahsa Amini, elles voulaient faire tomber le voile et le régime. Pour l'instant, elles n'ont pas réussi à faire tomber le régime, mais le voile, c'est un acquis. Ouais. C'est ça qui est fascinant. Quand je reçois des photos de mes amis à Téhéran et dans d'autres villes du pays, eh bien, dans les rues, la moitié des filles marchent tête nue. C'est révolutionnaire.
C'est révolutionnaire. Il faut rappeler, qu'est-ce qu'elles risquent
légalement.
Elle risque gros, elle risque la prison, elle risque des coups de fouet, elle risque des amendes. Il faut savoir que si vous êtes prise, flashée, entre guillemets, au volant de votre voiture sans foulard, on embarque votre voiture à la fourrière, vous payez une amende colossale qui est l'équivalent de presque 6 mois de salaire moyen. C'est terrible et malgré tout, c'est ça qui m'épate, elle continue à prendre ce risque.
Et est-ce que cette révolution, cette envie de liberté, elle touche tous les milieux sociaux en Iran ou c'est, je ne sais pas, plutôt urbain ou...
C'est la grande nouveauté de ce mouvement parce qu'on n'en est pas à la première poussée de fièvre en Iran. Quand j'habitais à Téhéran, j'ai couvert les émeutes estudiantines en 1999. Ensuite, il y a eu la vague verte en 2009 contre la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, où il y avait des masses et des masses de gens qui sortaient dans la rue, mais c'était surtout Téhéran et les grands axes urbains. Ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que c'est tout l'Iran qui s'est réveillé à la mort de Mahsa Amini. Vous avez les bourgades reculées, comme les grandes villes, vous avez le nord, le sud, les jeunes, les moins jeunes, toutes les régions. L'Iran, c'est plein de régions et plein d'ethnies différentes. Je peux citer le Kurdistan, le Baloutchistan. Et ça a percé, en fait, tous les milieux. C'est pour ça que je pense qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint.
Je suppose quand même qu'à l'heure actuelle, il y a encore énormément d'arrestations.
Les arrestations se poursuivent. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'à un moment donné... On entend, entre les discours, entre les lignes, quand les hauts gradés des gardiens de la Révolution interviennent à la télé, ou les policiers, ils le disent eux-mêmes, qu'ils font face à une jeunesse incontrôlable. J'en cite d'ailleurs, parce que ce livre, c'est une fiction, ce roman, mais il est pétri en filigrane de plein de petites phrases que j'ai picorées à droite à gauche.
Et à un moment donné,
il y a un policier qui dit « Mais c'est pas possible !» Il a convoqué tous ses collègues et il dit « C'est dingue, on a tout essayé. » Et on était dans une rue l'autre jour et on essayait de tirer à balles réelles sur les balcons et on se recevait des fers à repasser sur la tête, des bâtons, des chaises. Ces jeunes, ils n'ont pas froid aux yeux.
Pour vous, il n'y aura pas de retour en arrière.
Et donc, il n'y aura pas de retour en arrière parce que, en fait, on a quand même une masse critique très importante et que les policiers ne sont pas en nombre suffisant pour contrôler tout un pays. Alors, évidemment, régulièrement, la police des mœurs reprend du service. Il y a des rafles, il y a des descentes dans les cafés, il y a des filles qui se font traîner littéralement à terre jusqu'à être embarquées dans les fourgonnettes. Et malgré tout, ce qui m'impressionne, c'est que ça se passe dans un quartier, le lendemain, dans un autre quartier, les filles reprendront la vie comme avant et continueront à retirer leur voile, à aller travailler sans voile, à prendre le métro sans voile. Ça, pour moi, c'est une révolution déjà. C'est la révolution dans les têtes, la révolution des mentalités.
À suivre, il fait partie de ceux qui, non content d'être proche de la gauche radicale, source internet, a aussi œuvré à la mise au ban de C8, dont il n'a cessé de dénoncer les dérives, du moins à l'époque où il avait un endroit pour le faire. Cyril Lacarrière savoure sa revanche aujourd'hui, mais s'inquiète aussi car C8 veut et tente par tous les moyens de conserver sa fréquence. Le Lacar News arrive juste après Mia, Pepper Plane sur France Inter. Winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
hypocrisy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Vous écoutez Zoom Zoom Zen, deux heures pour décompresser tout en s'informant. Dans un instant, un changement de vie décoiffant, une poupée à l'effigie d'Aya Nakamura et un joueur de l'équipe de France de foot qui veut lancer une grève. Tout arrive. Mais d'abord, on continue d'examiner la situation en Iran avec notre invitée, la grand reporter Delphine Minoui. Je rappelle votre roman Delphine Badgens, publié au Seuil. C'est l'histoire d'une jeune iranienne qui défie l'ordre établi. Pourquoi vous, la journaliste, la grand reporter, avez choisi le roman pour raconter la vie des jeunes femmes iraniennes?
Ben, j'ai senti la nécessité de faire une sorte de pause, d'arrêt sur image. J'ai couvert les grands mouvements de cette révolte, Femmes, Vie, Liberté, à distance malheureusement, parce que depuis plusieurs années, je ne peux pas retourner en Iran. J'ai donné la parole à de nombreuses femmes, mais on est limité dans un article. On a beaucoup moins de place que dans un roman. Et aussi, j'ai voulu aller sous la peau de l'événement, regarder l'événement droit dans les yeux et pouvoir mieux incarner ce qui s'est passé. Et j'ai senti que la meilleure façon de le faire, c'était moi-même de me glisser dans la peau d'une de ces adolescentes. Parce qu'elles sont très très jeunes, hein, la plupart des filles qui sont sorties dans la rue, 16, 17 ans. Et il y a une image en particulier qui m'a marquée dans cette révolte, c'est celle d'une de ces filles qui a été tuée, Nika Shakarami. Sa photo, sa vidéo a été virale sur les réseaux sociaux. On la voit debout sur une benne à ordures, en train d'écouter les applaudissements de la foule. Elle retire son voile et elle le brûle. Et là, je me suis dit, waouh, cette fille, en fait, elle n'a jamais été autant en vie parce que, pour la première fois, elle se réapproprie ses cheveux, son corps, ses formes, sa condition de femme à part entière. Et en même temps, elle sait qu'elle peut mourir à tout instant. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui a poussé Nika et tant d'autres filles à passer à l'acte. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce monologue intime intérieur où je repars en flashback dans la vie d'une jeune adolescente depuis son enfance.
Un point très important, parce que peut-être que c'est confus dans l'esprit de certains, l'Iran, c'est un régime très dur, mais c'est pas l'Afghanistan. En Iran, les jeunes, ils ont une connaissance totale de l'actualité dans le reste du monde, ils ont Netflix, ils sont biberonnés à la culture occidentale.
Oui, ça c'est un point très important, et c'est ce qui fait la force du mouvement à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est un des nombreux paradoxes de la République islamique. Il y en a tellement. D'ailleurs, République islamique, on est d'accord, ça ne va pas trop ensemble. Eh bien voilà, c'est ça ce pays. C'est le pays des contrastes, des incompréhensions, ce qui fait que les Iraniens et les Iraniennes ont toujours réussi à se faufiler comme ça, entre les mailles de la censure, et plus que jamais depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Parce que d'un côté, en effet, vous allez à l'école, on vous apprend à vénérer l'ayatollah Khomeini, le père de la révolution islamique, et son successeur, l'ayatollah Khamenei. On vous abreuve de récits épiques réutilisés sur la grande guerre Iran-Irak pour faire comprendre aux jeunes que, vous comprenez, on ne s'est pas battu pour rien pendant 8 ans pour que vous alliez faire la fête dans des soirées underground. Mais de l'autre côté, ces jeunes, comme ils sont connectés aux antennes satellitaires, qu'on appelle d'ailleurs là-bas en Iran antennes paradiaboliques, parce qu'elles sont interdites, mais tout le monde se bidouille des petites antennes sur les toits. Et comme ils sont connectés à l'Internet, malgré la censure, ils ont tous entre 15 et 20 VPN. Ils cassent les filtres, ils connaissent mieux que nous-mêmes, mieux que nous, les séries Netflix. Toutes les filles sont fans de Taylor Swift, Billie Eilish, on n'a rien à leur apprendre. Et donc cette jeunesse qui est au fait de ce qui se passe à l'étranger, évidemment qu'elle aspire à vivre, elle aspire à une plus grande liberté et à réaliser ses rêves, comme les jeunes du monde entier.
Quentin ?
On sent que vous la trouvez belle, cette révolte, même si elle n'a pas abouti à la chute du régime. Est-ce qu'elle a changé les consciences ?
Je pense que tout se passe dans les têtes aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a vraiment frappée, c'est-à-dire cette idée de... Même ceux qui sont condamnés à mort, eh bien, il y a comme un rite de passation. Ils disent aux autres, battez-vous, puisque je ne serai plus là pour me battre. Je vais vous citer un des jeunes qui, avant d'être exécuté, a dit cette phrase incroyable, ne priez plus, ne lisez plus le Coran, soyez heureux, chantez et dansez. Et si vous regardez toutes ces vidéos de tous ces jeunes qui sont morts sous les balles et de tous les autres qui continuent à résister par la vie, par la joie, eh bien vous les voyez tous danser, vous les voyez tous chanter. Mmh. Ils sont très impertinents. Ils utilisent d'ailleurs beaucoup l'humour aussi comme forme de résistance.
Vous écoutez France Inter, il est 17h25. Face à vous, Delphine, je le précise parce que vous êtes journaliste au Figaro et que vous pourriez être choqué par ces idées radicales, un individu proche des milieux de la gauche radicale. Voilà en tout cas comment le décrit un compte c'est qui fou. Nous suit oui. sur les réseaux sociaux et qu'on adore. A bien ri en lisant cet après-midi puisqu'effectivement les gars, c'est finement observé. Tous ceux qui côtoient Cyril Lacarrière au quotidien le savent, hein. Il est à la gauche de Manon Aubry, même Philippe Poutou est trop à droite pour lui. Ouais. Bien vu, vous avez démasqué le premier anarcho-syndicaliste qui porte une montre IWC. Bravo les champions. Cette petite précision est en fait et quelques droits d'auteur
pour Johnny.
Alors ouais, Johnny évidemment.
Et Laetitia, du coup.
On peut passer et non pas chasser le Lacarnius parce non. que personne ne se permettrait de faire
oh,
ça.
Non.
Oh non, ouais. Le Lacarnius Cyril, on commence par la grève du jour.
Le calendrier se charge chaque année, on a toujours plus de matchs, moins de repos, ça fait 3 ou 4 ans qu'on le dit et personne ne nous écoute. Il va arriver un moment où on va faire grève, c'est le seul moyen qu'on aura pour être entendu. Cette menace, elle vient de Jules Koundé, le défenseur de l'équipe de France et du FC Barcelone, nouvelle icône de la mode également. Un vent de protestation se lève parmi les joueurs de foot. Ils en ont marre de voir leur saison s'allonger en juin prochain. Certains vont devoir se coltiner la toute nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Cette saison, c'était l'Euro. En 2026, ce sera la Coupe du Monde, celle des Nations ce coup-ci. Bref, ça ne s'arrête jamais. Un joueur peut jouer plus de 70 matchs par saison. Alors je sais, il gagne des millions, gna 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 gna, peut-être, mais ça ne les rend pas indestructibles. Et si les joueurs sont lessivés à la fin, ce sont des matchs qui deviennent chiants. Mais que voulez-vous, pour la FIFA et l'UEFA, business is business.
Le grand capital vous ment. Le grand capital vous spolie.
On embrasse Arlette Laguille, ou plutôt sa marionnette, j'imagine. L'appel du jour, Cyril.
C8, viré de la TNT, l'affaire n'est pas finie. La chaîne a décidé de faire appel de la décision de l'ARCOM. Elle demande au Conseil d'État de désavouer le régulateur. Baba et ses amis n'ont visiblement pas digéré cette bonne grosse taloche. En plus, depuis le début de la saison, Touche pas à mon poste perd son match face à Quotidien. Et ça, Baba, il ne doit pas aimer non plus. Méchant ARCOM.
Et on termine par la poupée du jour, Cyril.
Celle d'Aya Nakamura. La chanteuse a inspiré le fabricant de poupées Bratz, une marque américaine de jouets. Si vous ne connaissez pas, ça ressemble tout simplement à des Barbies. Si ce projet se concrétise, c'est encore un projet, cette Aya Bratz serait la première personnalité française noire à avoir sa poupée. Vraiment, rien ne résiste à la reine Aya Nakamura.
Merci beaucoup, Cyril. Vous êtes un grand fan d'Aya.
Ah, vous me verriez danser sur Pookie, c'est...
Et oui, même toi,
ça, ça doit être très très
on
beau.
On va vous
ça.
Voir ce soir, Cyril. On prendra
oui,
des
ce
vidéos.
Soir, c'est la soirée France Inter.
Voilà. J'y serai, Mathieu.
J'y serai, évidemment. Et je serai même tout en haut du podium. Delphine Minoui, vous aviez aimé ce combo Aya Nakamura, garde républicaine à la cérémonie des JO?
Ben moi ça m'a plu, parce qu'il y a un côté d'ailleurs très bad gens, très espiègle, très, ça s'est décalé par rapport à ce qu'on attend et je trouve qu'en termes visuels, même c'était très fort, je les suivais à distance à la télévision.
Est-ce qu'Aya Nakamura elle est connue jusqu'en Iran?
Alors, elle n'est pas connue, mais j'imagine que si vous lanciez la mode, je pense que ça prendrait, parce que c'est le style de musique qui plaît justement à cette nouvelle à la génération Z.
Il suffit de me demander, vous savez, je suis un très prescripteur très pour la Gen Z. Donc là, il n'y a pas de problème, je peux lancer sa carrière à peu près n'importe où dans le monde.
Évidemment.
Face à vous, Delphine, deux missions l'attendent, l'une étant mieux payée que l'autre. La première, c'est sa rubrique sur la presse quotidienne régionale dans notre émission. La deuxième, un déménagement qu'il va assurer ce week-end entre le 11e et le 12e arrondissement de Paris avec une estafette qui vient d'être recalée au contrôle technique,
10e.
Sans assurance responsabilité civile et sans avoir déposé au préalable une quelconque autorisation de stationnement. On lui souhaite bonne chance dans ces deux entreprises.
Oh
et on commence par la plus sûre des deux, sa France à lui. Aujourd'hui, Quentin, vous avez épluché la presse du Perche.
Oui, un endroit situé pile entre Paris et la Normandie. Une zone assez floue, hein, Marie de Breuer. En tout cas, ça s'étend sur quatre départements, mais
La ville du Mans, c'est pas dans le Perche, comme tu me l'as répété 17 fois, mais comme j'ai joué le 25 octobre, il faut quand avant-gardiste parisienne, voilà, que je sache où je vais jouer.
Voilà, c'est bien le Perche, c'est votre région de cœur, Delphine Minouy, puisque votre papa iranien et architecte a retapé une grange du côté de Rémalard, une sorte de pionnier des bobos parisiens. Des parisiens qui, depuis 15 ans, ont bien investi le secteur, notamment le week-end. J'ai donc ouvert l'hebdomadaire Le Perche. On y parle d'un club de tennis de table de Mortagne qui veut surfer sur la Lebrunmania, des moines dans une abbaye qui veulent s'ouvrir aux touristes en 2026, et il y a surtout ce portrait qui m'a plu, page 6, des gratte-ciels de New York à Saint-Jean-la-Forêt pour cultiver des piments. Voilà, ça c'est le genre de portrait de la presse locale que j'adore. Il y a 5 ans, Fabien Coupez était graphiste à New York et aujourd'hui il pose sous une serre verdoyante avec des piments dans la main. Il raconte au journaliste Vincent Guerrier les ribs et le porc effiloché vendus au coin des rues new-yorkaises et les sauces parce que aux US, la sauce fait partie de la culture du barbecue. Et puis, Covid, retour en France, recherche d'une région sympa avec sa femme et ses enfants. Et là, un terrain qui l'inspire dans le Perche pour faire ses sauces pimentées de la graine à la sauce. Je découvre aussi que le piment peut pousser dans le Perche. Fabien explique que c'est la même famille que les poivrons, ça a besoin de soleil et avec le réchauffement climatique, on en verra de plus en plus en Normandie. Il raconte les jeunes clients, fans de l'émission Hot Ones de Kian Kojandi, qui connaissent l'échelle de Scoville et qui souhaitent systématiquement goûter son piment le plus fort. Le jeune agriculteur aime son nouveau cadre de vie, loin des gratte-ciels. Il voudrait même monter un festival qui mêle musique et gastronomie pimentée. Faut vraiment être perché.
Ah, faut vraiment être perché. Je l'ai eu, mais a posteriori. Hein, mais c'est tellement travaillé, c'est tellement bien écrit, c'est ciselé. C'est magnifique. Et où sont les piments? On goûte pas?
Oui, ils peuvent nous en envoyer.
Ah, bah Fabien, je pense. Ah, ça va lui remonter aux oreilles, il y a des chances. Fabien, on vous attend, 116 avenue du président Kennedy.
Bien joué. Merci, Quentin. Delphine, lorsque vous êtes en France, vous allez écrire, je crois, dans la grange retapée par votre père, dans le Perche. C'est une région qui vous inspire?
Énormément. C'est là où je m'y retrouve aussi entre mes deux identités, française du côté de ma mère et iranienne du côté de mon père. Et mon père qui avait acheté cette grange pour rien du tout à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de bobos en effet. C'était complètement perdu. Hein, pour la petite histoire, la gare, enfin qui est toujours la même gare, Nogent-le-Rotrou. On se moquait avec mes amis, on l'appelait Nogent-le-Gros-Trou.
Ah bah oui, forcément. Mais, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein.
Mais pour revenir au Perche, qui est une région magnifique, mon père avait planté dans le jardin des noix d'Iran et des roses d'Ispahan. Donc c'est là où je retrouve aussi, il y a cette part française en moi, et il y a un petit peu d'Iran. Et donc, il pousse des noix d'Iran également dans le Perche. Et j'ai appris récemment, d'ailleurs j'en étais ravie, que de nouveaux agriculteurs ont planté du safran. Qui pousse aussi, donc il n'y a pas que des piments dans le Perche, il se passe beaucoup
de
choses.
Du safran dans le Perche, on en apprend vraiment de belles
cet après-midi. Et c'est tellement calme que c'est en effet un endroit où j'adore écrire.
Mais comme je vous comprends. On continue de zoomer sur les 2 ans du mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran avec vous, Delphine Minouy, grand reporter au Figaro. Marie De Breuer se prépare pour sa chronique. De quoi vous nous parlez, Marie?
Eh bien, de ma concurrence directe. Xavier Niel, le gars rempli l'Olympia hier. Je suis deg qu'il ait réussi avant moi.
Le billet de Marie De Breuer, c'est dans Zoom Zoom Zen, évidemment. Juste après Françoise Breu, Cavale l'animal sur France Inter.
Ils sont entrés dans la vie. Cette nuit-là, le bruit de leurs sabots sur les pavés résonnait. On aurait dit qu'au ralenti, ils se déplaçaient. Que voulaient-ils voir de la ville? Le monde semblait la fin désertée. Des lièvres couraient sur le velours, des routes suspendues. Dans l'air se frôlaient leurs fourrures, les feuillages secs.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
2 heures pour rire de l'actu, même quand l'actu c'est l'Iran. Vous écoutez Zoom Zoom Zen, émission courageuse ou inconsciente, les audiences nous le diront. Alors on parle de l'Iran avec vous Delphine Minuit, mais pas que. Hein. Étonnamment, notre humoriste a choisi un autre sujet. Sujet surprenant, on pensait innocemment dans l'équipe de Zoom Zoom Zen qu'on ne pouvait pas être plus riche que le tonton de Quentin Lui. Et puis voilà, on a découvert Xavier Niel à l'Olympia. Que foutait le milliardaire patron de Free à l'Olympia? Ça va Marie, vous êtes toute pâle?
Bah bof, ça va bof, je suis jalouse un peu. Voilà, alors ça me surprend moi-même de le dire, je pensais pas un jour être jalouse d'un gars qui vend des abonnements téléphoniques. C'est très très bien hein, de vendre des abonnements téléphoniques, mais je trouve que c'est super agressif les lumières dans les boutiques. Je suis sensible des yeux, je pense qu'ils devraient mettre des petites lumières, des luminaires ambiance un peu chaleureuse, des petites guirlandes dans des pots de verre, enfin des trucs mimi quoi, sympa. Bref, j'y étais pas hier moi au spectacle de Xav, rapport au fait que je ne porte pas de Stan Smith. À l'entrée, il m'aurait dit non, 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 madame, ici c'est Stan Smith only. Et moi j'aurais été là, mais enfin, les entrepreneurs en Stan Smith, c'est une blague de 2017. Faut passer à autre chose, Marie. Et là j'aurais répondu, oh oui Marie, t'es un peu dur, mais t'as raison. Voilà. Sur le sujet du jour, Xav à l'Olympia, pour moi, ça a la même saveur que le spectacle de ma nièce, qui nous oblige à la regarder entre le fromage et le désert. Regardez-moi! Elle a 7 piges, mais elle est super autoritaire. Hein. Et nous on la regarde, on est là, ouais, bravo Manon, t'as tourné sur toi-même. Ouais. Bravo. Après, ma nièce, elle a pas mis 25 000 balles dans la location d'une salle. Hein. T'imagines, ma nièce, 7 ans, avec sa petite valise avec 25K de petites coupures, qui se paye l'Olympia, et là, le jour J, devant 2000 personnes, et maintenant, je vais lécher mon coude. Son sketch dure 27 minutes. Bon, je lui ai dit de couper, mais elle m'écoute pas. Cette pige, j'ai déjà un énorme boulard. Bref, dire qu'un jour, si je fais l'Olympia, je pourrais dire que je marche sur les mêmes planches qu'on frôlait Edith Piaf, Dalida et Xavier Niel. Voilà, c'est lui, il est milliardaire, il a appelé son spectacle « Comment devenir milliardaire ?» Il s'est pas foulé, mais ok. Du coup, moi, je pourrais faire « Comment rester célibataire très 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 longtemps suite à un rapport conflictuel avec la figure masculine dans une société misogyne et du coup faire des blagues pour quand même à travers le rire ?» Mais je suis pas sûre qu'ils aient assez de lettres rouges pour l'aventure. Vrai ou faux? C'est évidemment vrai. Hier, Xavier, il s'est déguisé en Batman.
Il s'est déguisé en moi.
Oh, ça marche vraiment pas ouf, cette voix, Marie.
Je suis pas Marie, je vous permets pas, je suis le Batman.
Ouais. Bah du coup, qu'est-ce que tu fous là? Tu dois pas sauver Batman.
En fait, j'en ai marre qu'on me fout la Sauvez des gens, sauvez des gens, sauvez des gens. Vous voulez quoi? Que je fasse un burn-out? Sauvez-vous vous-même.
Voilà, il a un gros sur la patate. J'arrête cette fausse voix. Oh là là, le pauvre Batman. Enfin, le pauvre. Le pauvre, non, le riche. Tiens, en parlant de riche, Xavier Niel. Oh, la pirouette, cette femme est brillante. Je t'aime. Pendant son spectacle, Xavier a cité Albert Einstein, Léonard de Vinci en précisant des gros QI, mais aucune start-up. Et bah, ça, on appelle ça se tirer une bastos dans le pied. Hein. Vous pouvez réussir dans les affaires en étant complètement teubé. C'est Stan Smith qui rigole. Xavier a aussi dit regretter l'uniformité masculine et blanche de l'entrepreneuriat en France. Et ben ça, c'est sa meilleure blague. Comme on dit, c'est son tchao pantin. J'ai pas la ref, évidemment, j'ai pas vu tchao pantin. Je crois que ça veut pas du tout dire ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est peut-être facile d'être milliardaire, mais l'humour, ça s'achète pas. Sauf pour moi. Moi, vraiment, je suis achetable, grave. Filez-moi un maximum d'oseille directement dans ma bouche. Merci.
Merci Marie. Directement dans votre bouche, voilà une dernière phrase qui ne manquera pas de surprendre les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant et qui se demandent un peu où ils sont. Eh bien, vous êtes dans Zoom Zoom Zen et chaque après-midi, on dissèque l'actu en compagnie d'un invité qui en connaît un rayon. Aujourd'hui, sur la condition des femmes en Iran, nous sommes avec Delphine Minoui, journaliste au Figaro et autrice d'un roman Bad Gens aux éditions du Seuil. Je le disais tout à l'heure, on a peut-être un regard biaisé sur la vie quotidienne en Iran. La vie quotidienne d'une femme, d'une jeune femme en Iran est-elle vraiment si différente de celle de nos jeunes à nous? À part, évidemment, la loi qui est différente. Mais est-ce que leur vie quotidienne est très différente?
Mais en fait, il y a comme une vie schizophrénique en Iran. il y a ce que vous faites, ce que vous pouvez faire dans l'espace public, c'est-à-dire pas grand-chose. Officiellement, les femmes doivent être voilées, même si maintenant, comme on le disait tout à l'heure, elles résistent de plus en plus et elles laissent tomber les foulards. Vous ne devez pas serrer la main aux hommes. Il y a des endroits qui sont réservés aux hommes, d'autres endroits réservés aux femmes. Et dans l'espace privé, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger des vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire la fête. Tout se fait en fait en souterrain. Quand j'habitais à Téhéran, par exemple, oui, quand il y avait des soirées, chacun se refilait un numéro de portable et vous pouviez commander de l'alcool qui était interdit en Iran. Mais il y avait des mots de passe, entre guillemets. Donc, pour du vin rouge, vous demandiez du jus de raisin. Et,
le mot de passe est...
Voilà, et pour... ou du jus de grenade, parce que c'est la couleur. Et pour du vin blanc, c'était du jus de pomme. Et deux minutes plus tard, quelqu'un arrive, sonne à votre porte et dans un sac plastique poubelle, vous délivre de l'alcool dans des canettes. C'est la première fois que j'ai découvert qu'on pouvait acheter de la vodka, du cognac, tout ça.
En canette, ça existe.
En canette, voilà. Ça, l'Iran a fait ça.
Vous nous disiez que les femmes se dressent aujourd'hui. Il ne va pas y avoir de retour en arrière d'après vous, parce que là, c'est un mouvement fort, chez les jeunes notamment. Est-ce que du côté des autorités, il y a aussi un peu plus de laxisme, un relâchement. Est-ce que ça existe aussi actuellement en Iran ?
Alors, du côté de la société, ce qui est frappant, c'est justement grâce à cette nouvelle génération et sous la pression de cette nouvelle génération, tout ce qui était fait en catimini, de façon souterraine, eh bien aujourd'hui, ça explose sur la scène, la sphère publique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des murs, il y avait des voiles. Et là, petit à petit, les murs se brisent, les voiles tombent et les jeunes aspirent à vivre... librement. On a vu ces images encore une fois sur les réseaux sociaux où les filles dansaient dehors, chantaient, alors que le chant est interdit. Du côté du régime, ça se fissure progressivement également. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le fossé se creuse de plus en plus entre une masse de mécontents de plus en plus importante et une minorité au pouvoir qui s'accroche et qui continue à maintenir ses œillères. Mais vous avez beaucoup aujourd'hui d'enfants ou de petits-enfants de gardiens de la Révolution ou d'ayatollah ou de mollah qui soutiennent le mouvement actuel.
Est-ce que le régime peut tomber avant la mort du guide suprême ?
Je ne suis pas dans la tête de... Enfin, c'est très difficile, je ne suis pas devin et c'est très difficile de se projeter. On a l'impression que le régime n'a jamais été autant fragilisé, mais justement... parce qu'il est fragilisé, il utilise l'arme de la violence, et ça peut aller loin, on le disait tout à l'heure. Maintenant, je pense en effet que le tournant, ce sera le jour où le guide suprême mourra, parce que là, il y aura une lutte pour le pouvoir. Et c'est peut-être cette brèche que saisira à nouveau la population pour à nouveau ressortir dans la rue.
Manon ?
Un mot sur ce qui se passe en Afghanistan, où les femmes n'ont maintenant plus le droit de parler dans la rue. Vous pensez que les femmes là-bas pourraient aussi descendre dans la rue pour contester le pouvoir, les femmes afghanes ?
Ça se fait de temps en temps, mais vraiment de façon plus isolée, plus en catimini. La chance, je dirais, qu'ont les Iraniennes par rapport aux Afghanes, c'est qu'il faut rappeler qu'en Afghanistan, la population a déjà vécu sous une chape de plomb des talibans qui étaient tombés à l'époque en 2001. C'est une population, surtout dans les provinces, qui a un grand souci d'éducation, alors qu'en Iran, ça c'est la force de l'Iran. Et c'est tout encore un des paradoxes, c'est-à-dire que l'ayatollah Khomeini, à l'époque, avait voulu que les filles aillent étudier puisqu'elles avaient ce foulard qui leur permettait d'aller sur les bancs des universités avec les garçons. Mais le résultat, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, en fait, il a créé ses détractrices et qu'aujourd'hui, sur les bancs des universités, 60% des étudiants sont des étudiantes. Donc c'est pour ça que ces femmes, elles sont à la pointe, à l'inverse de leurs sœurs et de leurs cousines afghanes, qui ont beaucoup plus de difficultés à s'imposer, parce qu'elles ne disposent pas peut-être de tous les outils, et puis parce qu'en province, ça reste très 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 conservateur. Mais j'en profite pour rappeler qu'il ne faut pas les oublier, évidemment. Il y a quelques jours, ce décret hallucinant des talibans, 140 pages, elles ne peuvent plus rien faire, elles ne pouvaient déjà plus étudier, elles ne peuvent plus sortir dans la rue sans chaperon, elles ne peuvent plus lire un livre en public, elles ne peuvent plus se parfumer. Elles sont littéralement emprisonnées.
Vous écoutez France Inter, il est 17h45. Manon, je le disais, vous avez beau être notre spécialiste réseaux sociaux, vous avez en matière d'éducation des idées bien arrêtées. Pas d'écran avant 16 ans, pas de dark romance avant 18 et pas de sexe avant 22. Avec vous, Meta n'aurait pas besoin de prendre des mesures pour protéger les mineurs sur Instagram. Les mineurs auraient tout simplement interdiction d'aller sur Instagram. Et justement, c'est un compromis qui se dessine.
Et oui, Instagram va imposer des comptes spéciaux pour les adolescents qui utilisent sa plateforme. Une mesure inédite dédiée aux 13-17 ans. Dorénavant, leurs comptes seront automatiquement passés en mode compte adolescent sans leur laisser le choix. Et s'ils veulent revenir à la version normale, ils devront obtenir une permission de leurs parents. Je précise que pour le moment, ça n'est mis en place qu'aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, mais que ça devrait arriver chez nous d'ici la fin de l'année, donc pas de panique. Si votre ado n'a toujours pas eu son compte restreint, ça va vite arriver. Et cette option va peut-être soulager beaucoup de parents, car elle permet évidemment une plus grande vigilance concernant la protection des mineurs avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Déjà, les comptes des ados seront automatiquement privés. Et puis, plus personne ne pourra leur envoyer des messages privés à part ceux que les ados suivent. Même principe pour les mentions. Niveau contenu, les publications dites sensibles leur sont masquées. Par exemple, ils ne pourront plus voir de gens qui se battent ou des influenceurs qui font la promotion de chirurgie esthétique. Et puis, Meta a dit qu'elle va appliquer une politique anti-harcèlement où des mots-clés leur seront masqués tels que suicide. L'entreprise a aussi amélioré les outils de surveillance pour les parents. S'ils pouvaient déjà mettre une limite de temps à leur enfant sur Instagram, ils pourront maintenant carrément bloquer l'utilisation de l'application. Et grande nouveauté, ils auront aussi accès à la liste des dernières personnes avec qui leur enfant a parlé durant la semaine.
C'est vraiment des gros changements que propose Meta.
Alors oui, franchement sur le papier c'est super, Meta s'en vante en disant que personne à part eux ne fait ça. La nouvelle a évidemment été reprise par tous les médias internationaux qui reprennent le communiqué de presse pour en vanter ces changements comme je viens de le faire. Mais personnellement, je suis sceptique pour une raison dont je parle assez souvent. Les adolescents maîtrisent 10 fois mieux les réseaux sociaux que leurs parents et il ne faut pas sous-estimer leur envie d'y avoir accès librement. Car dans tout ça, il y a l'éternelle question de l'âge. Oui, les comptes ados seront automatiquement passés en mode adolescent quand on a moins de 18 ans. Mais combien d'ados ont menti sur leur âge dès leur inscription? Ceux qui utilisent déjà Instagram avec un âge qui n'est pas le leur ne seront pas soumis à cette nouvelle règle. Je rappelle que pour s'inscrire sur Instagram, il suffit d'une adresse mail valide, l'appli ne contrôle pas l'âge de ses utilisateurs. Mais pour un ado, pour le coup, qui a été honnête sur son âge dès le départ, ça va être plus difficile de contourner ces nouvelles restrictions. Car lui, s'il veut revenir à un compte normal, il devra envoyer un papier d'identité à Meta ou prendre un selfie vidéo analysé par un système d'IA. Bon, autant sur la carte d'identité, j'ai pas trop de doutes. Concernant l'IA, je suis quand même un peu plus sceptique. C'est facile d'aller demander à son grand frère de mettre son visage à sa place.
Donc pour vous, il faut renforcer les contrôles d'identité.
Oui, je rappelle d'ailleurs qu'en France, une loi a été votée en 2023 qui impose la majorité numérique à 15 ans, notamment pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc normalement, les plateformes auraient dû mettre en place un système pour que les identités des jeunes soient vérifiées et ça n'est toujours pas le cas. Conséquence, aujourd'hui, selon les chiffres de l'association Génération Numérique, 63% des jeunes de moins de 13 ans sont titulaires d'au moins un compte sur un réseau social qui leur est théoriquement interdit. Alors effectivement, ça serait un travail colossal pour les plateformes de vérifier l'identité de chacun de leurs utilisateurs. Et puis ça soulèverait aussi beaucoup de questions, notamment sur la protection de nos données. On n'a pas forcément envie que Meta soit en possession de notre numéro de passeport, vu le nombre de fuites qu'on dénombre depuis des années. Après, il peut y avoir des solutions. Par exemple, pour sa nouvelle fonctionnalité concernant les ados, Meta a précisé que les papiers d'identité ne seraient gardés que pendant 30 jours avant d'être automatiquement effacés de leur base de données. On pourrait imaginer que ce principe soit appliqué à tout le monde, ados ou adultes. En tout cas, chez Meta, ils ont l'air très sûrs de leur nouvelle fonctionnalité concernant les ados, puisqu'ils comptent aussi la lancer sur tous leurs autres réseaux sociaux très prochainement.
Merci Manon Marini pour cette veille sanitaire. Delphine Inouï, les réseaux sociaux, ça peut être dangereux pour les ados, mais par contre, en Iran, c'est salvateur.
C'est une véritable autoroute de l'information, autoroute de la liberté, puisque les jeunes en Iran, assoiffés de... D'ailleurs, surfent à fond sur les réseaux sociaux. Ils sont accros à TikTok, Instagram. Pour écrire ce livre, j'ai tissé un lien régulier avec des adolescentes en Iran pour écrire Bad Gens. Et c'était impressionnant de voir le nombre de filles qui avaient même des sortes de chaînes Telegram, des chaînes Telegram pour écrire leurs journaux intimes, pour être en contact avec d'autres jeunes à travers le monde, avec des vlogs aussi sur YouTube. Et des filles qui ont des copines à New York, en Corée du Sud, à travers la planète. Et ça crée ce lien possible, c'est vraiment une fenêtre sur l'extérieur, sur le monde, quand le monde est complètement verrouillé pour eux.
Si jamais un jour vous parlez des femmes iraniennes, n'oublie pas de me mettre sur le planning, j'ai plein de vannes sur le sujet. Me disait il y a quelques semaines Yann Marguet. Bonjour Yann, promesse tenue.
Oh, on a ri, mais on a ri en préparant cette chronique avec Imagine, ma co-autrice, ouais. Vous n'imaginez même pas.
Le bijou caustique de Yann Marguet, c'est dans Zoom Zoom Zen, juste après Optala sur France Inter.
Surprise that I'm wishing you the best. When I think of your true colors, doesn't even make me shudder. Crazy, we were so in love, now I couldn't care less. I thought it would kill me if I cut you out. You had me convinced, I've thought that I'd be grateful that you're hitting new lows, 'cause you helped me find a way to make it easy to go. So you can do what you do, keep on making your scenes. It says more about you than it says about me.
Il me charge de vous dire que la condition des jeunes Iraniens est un sujet très émotionnel et que c'est pas hyper facile d'en rire, mais qu'il va faire de son mieux. Il me charge aussi de dire à Cyril Lacarrière que s'il a d'autres sujets un peu plus, comme Goldorak par exemple, c'est pas mal aussi. Bonjour Yann Marguet.
Bonjour Mathieu. Histoire vraie, quand j'étais petit, j'avais un copain qu'on appellera Indiana, parce que c'est plus cool que son vrai prénom, qui, quand sa mère, Mary Beth, lui courait après pour lui en coller une à la suite d'une ânerie. Notons qu'Indiana n'était pas un enfant battu, mais tout au plus une victime de certaines techniques éducatives qui perdurait alors, était systématiquement saisi d'un fou rire au moment où se lançait le chassé-croisé correctionnel mère-fils, dont l'issue serait inéluctablement fatale pour son popotin. C'est-à-dire que son stress, qui avait dû être réel au cours des quatre premières fessées, s'était à l'usure mu en joie, en euphorie, en démonstration d'audace à l'idée d'échapper à son oppresseur. Alors bien sûr, mon exemple liminaire est complètement de la merde dans l'espèce, puisqu'Indiana ne risquait pas la mort, la torture ou l'exil, ni, comme j'ai pu le lire dans Persepolis, au sujet d'une jeune femme, un viol avant son exécution, dans la mesure où la loi interdit de tuer une vierge. Le pragmatisme des hommes est sans limite. Mais si vous me demandez où en est la nouvelle génération iranienne en ce moment, eh bien j'ai l'impression qu'elle en est un peu là, comme Indiana en son temps, à braver la peur pour asseoir sa gaieté et son envie toute humaine de rire, de chanter et de vivre. Si j'ose cette comparaison tout à fait bancale, c'est aussi parce qu'il est difficile, voire totalement impossible pour un babtou fragile comme moi, élevé au chocolat Milka dans les montagnes helvétiques. Bien sûr que tu peux faire humoriste, artiste, mon chéri, d'imaginer une seconde le courage qu'il faut invoquer pour ôter un foulard devant des mollas tellement obsédés par la mode qui ferait passer Anna Wintour pour la co-gérante d'un naftaf à Saint-Etienne. Une fessée, ensuite, c'est un des trois trucs les plus dangereux, avec être en retard dans un paiement d'assurance et traverser au rouge. Alors, je reste en terrain connu. Et des fessées, il en a connu le peuple iranien avec une régularité pavlovienne, mais depuis la mort de Mahsa Amini, celle que les gardiens de la Révolution considèrent comme des chiennes, ne salivent plus en entendant la clochette. Elles n'aboient pas, non mieux que ça, elles chantent. Elles ne mordent pas, elles désobéissent. Là où les générations précédentes menaient une vie d'agent double en étant secrètement libres au sein du foyer et faussement soumises une fois dans la rue, la Gen Z iranienne débarque comme du Gojira sur la playlist de France Musique et laisse, au péril de sa vie, sa liberté exploser au nez et surtout à la barbe des ultras du virage sud-ouest du FC Islam Radical. Ah, ça fait relativiser les manifs du 1er mai. Et même si elle et ils sont encore loin de pouvoir danser aussi furieusement que si leur guide suprême s'appelait l'Ayatollah Nakamura, eh bien, ils portent l'espoir pour ceux qui ont vécu la dictature avant eux, et à l'instar d'Indiana, dont le fou rire était communicatif, ils nous donnent envie d'aller danser avec eux, même si on ne le fera pas, car c'est beaucoup trop dangereux pour les Européens que nous sommes, et qu'on se contentera de beaux discours pendant une journée spéciale sur les chaînes d'info. C'est fou ce qui se passe en Iran quand même. Tiens, tu me repasses du fromage. À l'aube peut-être d'une nouvelle révolution en Iran, c'est pourtant un plus large soulèvement encore qui couvait sous le voile de Mahsa Amini, celui des femmes, qu'elles soient iraniennes ou mazanaises, comédiennes ou sur la route d'un abbé qui zozote, empêchées d'avorter en Alabama ou de chanter en Afghanistan. La queue est pleine et le temps où les hommes leur disaient quoi faire n'a que trop duré. Et aux malins qui trouvent encore abscons l'idée que des femmes en France militent pour garder leur voile alors que les iraniennes se battent pour l'enlever, je répondrai que tout l'enjeu, c'est la possibilité de choisir femme, vie, liberté.
Merci beaucoup Yann Marguet pour cette chronique émouvante aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine évidemment dans Zoom Zoom Z. Merci Delphine Minoui, votre dernier livre Bad Gens est en librairie, il est publié aux éditions du Seuil et on l'a appris hier, il fait partie de la première sélection du prix Interallié. On croise les doigts pour vous. Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez plus vous rendre en Iran? Est-ce que l'Iran vous manque?
Énormément, et c'est pour ça que tous les jours je suis au téléphone avec des dizaines de filles à travers le pays en Iran, des filles qui parfois n'ont pas la possibilité de s'exprimer, et je ressens le besoin justement de faire vivre et de faire danser leurs paroles. Vous parliez d'humour, vous parliez de joie, de danse. C'est une forme de résistance dans ce pays-là.
Merci encore Delphine Minoui, je rappelle le livre Bad Gens aux éditions du Seuil. Merci à tous les amis, Manon, Marie, Quentin, ce trotskiste de Cyril Lacarrière. Baissez cette faucille, vous me faites peur. Merci aussi à Florence Jumalac, Alexia Lacour, Laura Dumès, Pierre Courade, Gérald Darnaud, Romain Bonifaci et Valentin Gelsomino, l'armée mexicaine de Zoom Zoom Zen qui nous aide à préparer cette émission. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Guillaume Roux. Zoom Zoom Zen revient demain 16h avec deux questions. La galanterie est-elle morte et c'est quoi la French Touch? Pour l'occasion, la légende de la French Touch, justement, le manager historique des Daft Punk, Pedro Winter, sera avec nous. Et oui, Manon lui fera écouter ses bandes démos.
T'as l'air contente.
C'est grâce à la Carac.
Ta mutuelle d'épargne?
Oui, pour ses 100 ans, la Carac nous gâte.
Comment ça?
Si tu souscris au contrat d'assurance vie Carac Épargne Patrimoine, la Carac t'offre jusqu'à 500 euros.
Ah.
Et en plus du rendement du fonds euro, tu as un bonus de 2,60%.
2,60?
Absolument. Et à la Carac, aucun frais sur tes versements. À la Carac, on se bat pour vous. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2024. Risque de perte en capital pour l'investissement en unité de compte. Conditions sur carac.fr. Mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Grand frais.
Ouais les gars, c'est Alex votre batteur. Dites, pour le concert de demain, je peux pas, j'ai grand frais. Désolé, mais je préfère les pros du bien manger aux rockers amateurs.
Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. Écoutez leurs conseils est déjà un plaisir. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Allô Kev, salut, c'est Elsa. On s'est rencontrés sur la plage et voilà, je voulais prendre des nouvelles. Comment? La blonde? Ah non, loupé, moi je suis brune.
Mieux qu'une amourette de vacances, découvrez le coup de foudre de la rentrée. Jusqu'au 30 septembre, profitez du bonus rentrée d'EDF. 50 euros remboursés pour tout nouveau contrat en offre de marché et l'électricité jusqu'à 15% moins cher que le tarif réglementé.